Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La croissance économique en République tchèque a atteint 2,4% au cours du deuxième trimestre. Le président Václav Klaus a signé un amendement de la loi sur les marchés publics. Le ministre de la Santé renonce à la réforme du système de prescription des médicaments. La croissance économique en République tchèque a atteint 2,4% au cours du deuxième trimestre de cette année. Comparé au premier trimestre de 2011, le PIB a augmenté de 0,2%. Ces données publiées ce mardi par l'Office tchèque des statistiques correspondent aux prévisions des analystes. Selon eux, cette progression de l'économie tchèque serait due au commerce extérieur et ils constatent tout de même que la contribution de ce secteur à la croissance économique diminue progressivement et s'attendent à un ralentissement de l'économie tchèque d'ici à la fin de l'année. Le président Václav Klaus a signé un amendement de la loi sur les marchés publics qui doit, entre autres, rendre plus strictes les règles pour les appels d'offres dans le secteur de la défense et réduire les possibilités d'attribution des commandes publiques sans appel d'offres. L'amendement introduit aussi dans le droit des marchés publics tchèques une directive de l'Union européenne. La loi stipule que les personnes responsables des transactions publiques dont le montant dépasse 300 millions de couronnes, 12 millions d'euros, seront obligées de subir un test de sécurité. Le ministre tchèque de la Santé, Leoš Heger, a décidé de renoncer à son projet de réforme du système de prescription des médicaments. Selon ce projet, les médecins ne devraient désormais indiquer sur la prescription que la substance active du médicament et non pas son nom commercial. L'intention du ministre était de réduire les dépenses des caisses d'assurance maladie et de faire face aux pressions clientélistes exercées par les sociétés pharmaceutiques sur les médecins pour les motiver à prescrire les médicaments qu'elles fabriquent. Le projet du ministre a été fermement critiqué par l'Ordre des médecins et par certains spécialistes. Un groupe de médecins, patients et scientifiques tchèques a lancé ce mardi une pétition pour la légalisation de l'usage médical du chanvre. C'est une pétition pour l'utilisation du chanvre à des fins thérapeutiques. Nous ne demandons pas sa légalisation en tant que drogue douce, a expliqué l'un des organisateurs de la pétition, le médecin Tomáš Zábranský. En avril 2011, la République tchèque a autorisé la commercialisation d'un premier médicament à base de chanvre, du spray Sativex. Elle reste pourtant l'un des rares pays à proscrire la culture du chanvre à des fins thérapeutiques. D'après les organisateurs de la pétition, il s'agit d'une atteinte au droit du patient de choisir son traitement. Plus de 2000 pèlerins de toute la République tchèque participent aux 26e journée mondiale de la jeunesse qui se tiennent du 16 au 21 août à Madrid. Avant d'arriver dans la capitale espagnole, les jeunes tchèques ont visité Annecy. Ils ont également fait un arrêt dans l'archidiocèse de Tarragona. Les pèlerins tchèques sont accompagnés par une délégation de 5 évêques. Le pape Benoît XVI est attendu à Madrid ce jeudi. Côté météo, mercredi, jour de fête des Petra en République tchèque, nous profiterons d'un beau temps ensoleillé avec les températures situé entre 23 et 27 degrés. Jeudi, ce sera encore le grand soleil. Les températures devraient grimper jusqu'à 30 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková à la suite du programme avec Anna Kubešta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magdalena Hrozinková pour ce bulletin d'information. On parlera aujourd'hui de l'exception tchèque à la Charte européenne des droits fondamentaux réclamée par le président Václav Klaus à l'époque en échange de sa signature au bas du traité de Lisbonne. Un nouveau musée ouvre ses portes au cœur de Prague. Vous en saurez plus dans quelques instants, tels sont les grands titres du jour. Bonne écoute de ce programme. En octobre 2009, le président Václav Klaus a finalement signé le traité de Lisbonne, non sans mal. Avant de signer, il a contraint le gouvernement tchèque à réclamer une dérogation à la Charte européenne des droits fondamentaux. Cette dérogation, ou exception tchèque, a été réclamée par le chef de l'État pour, selon lui, éviter une possible remise en cause par cette charte des décrets Beneš qui ont servi de base à l'expulsion et l'expropriation de 3 millions d'Allemands des Sudètes. Tous les États membres de l'Union européenne doivent cependant encore valider cette dérogation, mais à Prague, le Parti social-démocrate, qui a désormais la majorité au Sénat, est contre, comme l'a expliqué à Alexis Rosenzweig Vladimir Spidla, ancien commissaire européen et chargé pour ce parti des questions européennes. On l'écoute.
Bonjour Monsieur Spidla, le vote sur l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne devrait avoir lieu dans les 27 pays membres de l'Union au cours de l'année 2013. Et avec ce traité d'adhésion de la Croatie se pose désormais la question de l'exception négociée par le gouvernement tchèque pour le président de la République, Václav Klaus. Une exception qui pose un problème à votre parti, le Parti social-démocrate, le ČSSD. Comment est-ce que vous positionnez personnellement et comment votre parti entend se positionner sur cette question et pendant les votes?
Je suis tout à fait contre cette exception parce que c'est une exception qui va dans la direction abaissée de la protection sociale en Tchéquie. Et elle va faire des citoyens tchèques les citoyens de la deuxième classe. Alors c'est une mauvaise chose. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait contre cette exemption.
Alors, votre parti, le ČSSD, a la majorité désormais au Sénat. Est-ce que le ČSSD va bloquer l'adoption de cette exception tchèque?
Naturellement, le social-démocrate tchèque est prêt à bloquer cette exception parce que ça va rien à faire avec l'adhésion de la Croatie. Parce que ce sont des choses tout à fait différentes. Ils sont fondés par des articles différents du traité. Alors il n'y a pas de raison. Et les raisons sociales sont naturellement à côté des sociaux-démocrates. Ça veut dire non.
Le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a lui-même parlé du risque pour les Tchèques de passer en quelque sorte pour des clones si l'exception était adoptée à l'étranger, l'exception tchèque, mais si le Parlement tchèque venait à la refuser. Qu'en pensez-vous?
Je pense que devenir un peu de clone, c'est mieux qu'accepter cette exception. Et encore plus, cette exception a été proposée par le gouvernement tchèque sans tenir bien des règles constitutionnelles tchèques, parce que le traité était déjà adopté par le Parlement et cet changement était à la dernière minute. Et je voudrais encore souligner que sans bien tenir le principe de la constitution tchèque.
Est-ce que vous pensez que la République tchèque va ternir son image au niveau de l'Union européenne avec cette histoire dans l'année qui vient?
Ah, me semble-t-il que ce n'est pas tellement important. L'important est naturellement le traité, c'était adopté. Et aussi important est naturellement si l'exception existe ou pas, c'est vrai. Mais que le processus en tant que tel, c'est important sans doute, mais pas tellement.
Alors, est-ce que le Parlement tchèque va essayer de faire passer ce vote sur l'exception avant que les autres États de l'Union européenne puissent se prononcer sur cette exception tchèque?
Ah, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est possible, mais je ne crois pas. Mais c'est possible, ce n'est pas... Ça pourrait être une méthode, mais ça dépend du Parlement tchèque et ça dépend aussi du Conseil d'État et comme ça. On ne sait pas, c'est ouvert.
Si vous vous intéressez à l'art contemporain et à ses tendances les plus actuelles, visitez le palais Colloredo Mansfeld dans la vieille ville de Prague. Derrière la façade baroque de ce monument, situé à quelques pas du pont Charles, se trouve une importante collection d'art moderne et notamment d'œuvres de la jeune génération de plasticiens tchèques, Václav Richter.
Le palais Colloredo Mansfeld est un très beau monument baroque de Prague. Cependant, à l'heure actuelle, il est aussi l'exemple des mauvais traitements que certains monuments pragois ont subis dans le passé. Il est la propriété de la municipalité de Prague, mais selon le conseiller municipal chargé de la culture, Lukáš Kautsky, la ville ne dispose pas de moyens pour le faire restaurer.
C'est la raison pour laquelle la municipalité de Prague a décidé de donner son feu vert au projet Art Banka dans le palais Colloredo Mansfeld. Il est absolument nécessaire de procéder au sauvetage du palais qui ne peut être réalisé dans la situation actuelle que par l'exploitation active de ce monument. Le palais ne va donc plus continuer à se délabrer. Il aura été exploité jusqu'au moment où nous trouverons les moyens pour sa restauration complète.
La restauration sera coûteuse. Il faudra réunir quelques 500 millions de couronnes, 20 millions d'euros. Dans le cadre du projet Art Banca, le palais a été mis donc à la disposition d'artistes contemporains et notamment des étudiants d'écoles artistiques. Le projet est organisé et supervisé par la galerie de la ville de Prague. Le directeur de la galerie, Milan Bufka, explique les ambitions des organisateurs.
Les jeunes artistes ne s'imposent qu'avec de grandes difficultés dans les galeries renommées. Nous voulons donc profiter de cet espace, le mettre à la disposition de l'art jeune et lui permettre de se présenter dans la rue Karlova, qui est une artère touristique très fréquentée. Nous avons donné à ces jeunes artistes un espace libre pour leur permettre de montrer leur création.
C'est donc un retour de vieux monuments à la vie. Les intérieurs ornés de fresques et de décorations en stuc sont accessibles au public et c'est un progrès malgré le caractère provisoire de cette solution. Milan Bufka explique ce que le visiteur trouvera dans le palais.
La maison est divisée en deux parties, l'aile baroque et l'aile classiciste où il y avait des appartements. Et l'exposition est conçue également de cette façon. Dans la partie baroque du palais sont installés ce qu'on appelle les solo shows, c'est-à-dire les expositions des artistes déjà renommés. Et la seconde partie où il y avait des appartements réservés aux écoles artistiques et à la création libre de leurs étudiants.
La partie baroque du palais a été fermée et pratiquement inexploitée pendant de longues années. Par contre, l'ère classiciste était encore occupée par des locataires il y a 2 ans. En ouvrant au public l'accès aux intérieurs baroques du monument, les organisateurs se proposent de donner aussi un témoignage sur les remaniements destructeurs que le palais a subis avant 1989. Ils présentent ces interventions malheureuses dans l'architecture baroque de l'édifice comme une partie de l'exposition. Si vous voulez voir tout cela, n'hésitez pas, car le palais Colloredo Mansfeld, qui n'est pas doté de chauffage, ne sera ouvert que jusqu'au début de la saison froide.
Voilà, après ces faits et événements, on passe à la deuxième partie de notre émission. Borgia, la nouvelle série télévisée historique à gros budget, consacrée à la famille, à la réputation sulfureuse dans l'Italie de la Renaissance, va bientôt être diffusée en France. La série a été tournée en République tchèque, principalement à Prague, mais aussi à Telč. 12 premiers épisodes pour un budget total de 25 millions d'euros. Klaus Zimmermann est le directeur général d'Atlantic Productions, la société qui a produit cette série consacrée à la saga des Borgia. Au moment du tournage, il avait répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig. Rediffusion aujourd'hui de cet entretien sur une production qui devrait créer l'événement de la rentrée télé en France.
Panorama.
Panorama.
Je m'appelle Klaus Zimmermann, je suis le directeur général de Atlantic Productions, la société qui produit donc la série Borgia.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cette série ?
Oui, alors il y avait du côté de Lagardère une volonté d'aller investir dans la production internationale. En complément de la production donc franco-française dont ils sont le leader, et avec l'arrivée donc de Takis Kondylis de TF1, il a donc voulu créer donc ce versant international, et à la recherche de partenaires pour ça, il est allé trouver Rodolphe Belmer, qui venait de sortir d'un grand succès avec la diffusion de Tudors et auparavant de Rome. Et entre les productions nationales de séries de Canal+ et les achats de programmes américains, ils ont aussi voulu investir dans une nouvelle gamme de programmes, c'est-à-dire des projets internationaux qu'ils initieraient, qu'ils porteraient. Et donc ces deux volontés s'étant rencontrées, ils ont identifié un projet fort international européen autour de Borgia. Et donc cette idée acquise, on est allé chercher quelqu'un qui pourrait le mieux écrire et concevoir une série qui pourrait intéresser un public mondial. Donc on est allé du côté des États-Unis cette fois pour trouver ce qu'on appelle un showrunner, c'est-à-dire quelqu'un qui non seulement écrit la série mais surveille toutes les étapes créatives jusqu'à la livraison donc de la série finale. On a trouvé Tom Fontana qui donc a déjà fait ses preuves aux États-Unis puisqu'il a reçu, je sais pas moi, 8 ou 10 Emmy Awards pour ses séries Oz, Homicide, etc. Donc il est très respecté, très expérimenté. Et en plus, il a beaucoup de connaissances et d'affinités pour la culture européenne et italienne, puisqu'il est d'origine italienne.
Pourquoi les Borgia ?
Je pense que les Borgia est vraiment une famille énigmatique entre le Moyen-Âge et la Renaissance en Europe, qui ont été très entre le pouvoir mondain et ecclésiastique, ils ont pris le pouvoir, ils ont abusé du pouvoir, et en même temps, il y avait dans les Borgia aussi une volonté de réforme, mais ils étaient à cheval vraiment entre deux époques, entre le Moyen-Âge dans lequel ils ont donc grandi et où ils ont appris leur métier, pas de banditisme, mais de clan, et en passé ensuite vers une nouvelle étape de l'Église qui était la Renaissance. Et d'ailleurs, l'idée de cette série, c'est de montrer cette transition avec l'arrivée au pouvoir d'abord de Rodrigo, une volonté forte de réforme, après donc une reconnaissance qu'en fait, dans un monde de pourri, il faut peut-être aussi être pourri, où il faut jouer le jeu, et au fur et à mesure de 3 saisons, après la mort de Rodrigo, c'est le personnage, sa fille Lucrezia, qui devient mécène. Donc il y a vraiment cette transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance qu'on permettra de voir.
On parle aussi des Borgia comme un clan mafieux avant la mafia, en fait.
Oui, tout à fait. Ils ont. Je pense que l'époque le voulait. Ils ont été aussi méchants et aussi vicieux, aussi empoisonneurs, je pense que d'autres clans à la même époque, sauf que ils étaient probablement les meilleurs.
Vous parliez de Tom Fontana, un grand nom de la télévision. Pour le casting, est-ce que le choix a été difficile ?
Oui, alors le choix de l'acteur principal a été très très long. Je pense que d'ailleurs ça a été le dernier des rôles qu'on a réussi à trouver. Ce n'est pas le choix qui nous manquait, mais c'était la décision qui était difficile à prendre, autant sur tous les autres personnages qui sont souvent des nouveaux talents. On devait choisir quelqu'un qui était déjà un acteur confirmé. On n'avait pas envie d'avoir quelqu'un qu'on reconnaît de par son visage. On disait, ah tiens, c'est machin qui joue Rodrigo. Donc on a voulu quelqu'un qui soit au niveau de pour le public européen plutôt un visage surprenant, juste. Et on a fini par trouver John Doman mais je crois que ça a été effectivement 2 semaines avant le début du tournage.
Alors vous parlez d'une coproduction internationale, qui est impliquée et pour un coût total de combien ?
Alors le budget total de la série Borgia, donc 12 premiers épisodes, est aux alentours de 25 millions d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 2 millions d'euros par épisode. Le tour de table a été fait donc avec Canal+ comme partenaire principal. On a réussi à trouver des fonds, notamment à travers une société de loi TEPA, qui est donc une structure défiscalisée, moyen défiscalisé pour des investisseurs. On a trouvé de l'argent de l'aide européenne. On a trouvé des subventions tchèques. Et puis un partenaire sur l'international, qui était la société EOS, qui nous a amené un gros avaloir.
À propos de ces subventions tchèques, pourquoi venir tourner cette série à Prague ?
Au départ, c'est un choix bien sûr financier, mais il y a toujours un rapport qualité-prix qu'il faut bien analyser. Donc avant de prendre la décision, on a fait une étude sur l'Espagne, une étude sur l'Italie, une étude sur la Roumanie, une étude sur la France, France-Belgique. Et au niveau de ce qu'il y avait comme décor disponible, décor naturel disponible, et au niveau de, je disons, du coût global que ça engendrait, le choix s'est porté très rapidement sur la Tchéquie, puisque quand même, même si 25 millions d'euros, c'est beaucoup beaucoup d'argent, faire une série de 12 épisodes en costume et dans des décors d'époque, ça coûtait beaucoup d'argent.
Est-ce que pour le côté financier, vous pouvez bénéficier de ces nouvelles incitations fiscales offertes par la République tchèque, c'est bien ça ?
Oui, alors nous on est je crois dans l'année 2010, on a déjà bénéficié du crédit d'impôt tchèque. Et je crois qu'on a été la société ou le projet qui a bénéficié le plus de cette aide, puisque elle venait juste de commencer quand on a commencé notre préparation ici. Donc on a vraiment eu beaucoup beaucoup de chance de que cette nouvelle loi a été votée.
Ça se passe comment au quotidien, la collaboration avec le personnel, les équipes tchèques? On est ici dans un palace de Prague, à côté du château de Prague, le Martinský Palace. Ça se passe bien au quotidien?
Ah oui, extrêmement bien. Il faut dire que la République tchèque a une longue histoire de la production de longs métrages et de télévision, et beaucoup beaucoup de producteurs de productions internationales et américaines sont déjà venus tourner à Prague. Et c'est vrai que ici il y a une main d'œuvre d'une très très grande qualification, et que les dernières années il y avait pas beaucoup de travail ici, donc à cause de la crise aussi, et les gens travaillent très volontiers, et c'est de la main d'œuvre vraiment extrêmement qualifiée, et je qualifierais de très dans la mentalité très proche de celle de la production française. Donc très au service de la qualité et très disponible.
Peut-être un mot, puisque je crois que c'est pour la première fois dans l'histoire de la télévision que deux séries se tournent en même temps sur le même sujet, puisqu'il y a une série qui s'appelle The Borgias, produite par la chaîne Showtime. C'est donc une première dans l'histoire, ça vous gêne ?
Oui et non, disons, ça nous a beaucoup gêné pour monter notre projet. Pour être franc, il y a eu des appels du pied des Américains pour essayer de fusionner les deux projets. Ils ont souhaité donc merger les deux projets créativement et financièrement, fusionner, pardon. Effectivement, il y avait des différences artistiques comme substantiel, puisque pour eux Borgia est une série plus d'inceste et complètement déconnectée de l'histoire. Eux, ils cherchent la dramaturgie, donc c'est tout à fait juste pour un public américain, mais pour un public européen, ça ne suffit pas. Si on veut faire les Borgia, il faut qu'on raconte au moins un petit peu la vraie histoire, et c'est ça qui est passionnant.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver en podcast, en streaming ou sous forme d'articles sur notre site internet le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.